Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, patience, Ngalula Mbombo.
Madame, Messieurs, bienvenue à cette session de nouvelles sur Radio Kapi. Au sommaire, l'évacuation des produits agricoles vers des grands centres de consommation demeure un casse-tête pour les agricultures du secteur des Mouiro dans les territoires des Poueto. Et pour cause, la dégradation avancée des routes des dessertes agricoles dans cette partie du Haut-Katanga. Affrontement ce mercredi à Kikovo et Ngekeni entre des combattants Wazalendo et les rebelles du M23. Pas de bilan disponible jusqu'ici. Cependant, la société civile locale signale les déplacements massifs de la population. L'invité de ce journal est le représentant résident de ONU Femmes en RDC. Adama Moussa parle de sa participation à la 7e édition de ministres provinciaux et de chefs des divisions du genre à Matadi. Bonsoir. Le secteur Mouiro, dans les territoires de Poueto, province du Haut-Katanga, est confronté aux difficultés d'évacuation des produits agricoles. Les routes de dessertes agricoles et celles qui mènent vers Kasomeno pour atteindre la ville de Lubumbashi sont dans un état de dégradation avancée. L'agronome principal du secteur plaide pour leur réhabilitation car certains agriculteurs se découragent et assistent impuissamment à la détérioration des fruits de leurs récoltes. Jean Gandou pour les détails.
Les principaux groupements où la production agricole est abondante sont notamment Kilomba, Mukupa, Mulimba et Kiala. On y cultive entre autres le riz et les haricots. D'après l'agronome du secteur, la production du maïs a sensiblement baissé car jugée non rentable. Un seau de 2,5 kg de maïs revient à 3 000 voire 3 500 francs congolais, pendant que la même mesure de riz coûte 6 000 voire 6 500 francs congolais. Et le principal centre de consommation est la ville de Lubumbashi. Cependant, les routes des dessertes agricoles sont en dégradation avancée. Conséquence, il y a des produits agricoles qui pourrissent. Certains agriculteurs qui perdent les fruits de leur labeur se découragent, nous renseigne l'agronome du secteur. Voilà pourquoi ils lancent un SOS aux autorités provinciales. Faustin Kabondo.
La production est bonne, mais ça décourage quand même du fait que pour cultiver beaucoup, mais pour évacuer, c'est tout un problème. La route numéro 5, à partir de Kasomeno jusqu'à Poueto, si le gouvernement ne se penche pas à ce point-là, pendant la pluie, il n'y aura pas de communication. Vous risquerez de faire des semaines ou un mois pour arriver à Lubumbashi.
Et pour contourner ces difficultés, il y en a qui recourent aux barges pour atteindre Kasenga et dès là, ils font transporter leurs produits dans les véhicules jusqu'à Lubumbashi. Une tâche qui n'est pas du tout aisée, souligne Faustin Kabondo. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Kasaï central, après l'alerte du CRONG sur les cauchemars des habitants de Kananga suite au retour des pluies, l'Office des voiries et drainage indique ne pas avoir plus de ressources pour stopper différentes érosions. D'après les directeurs provinciaux de l'OVD Kasaï central, les 30% des fonds alloués par les FONER pour des travaux d'urgence sur la ville se sont épuisés. Jimmy Kula indique que les plaidoyers sont en train d'être menés pour que le reste d'argent soit débloqué pour permettre à l'OVD de continuer et stopper certaines érosions qui menacent la ville. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Nous n'avons plus de fonds. Sur ce, nous avons sonné la sonnette d'alarme, nous avons écrit à l'autorité provinciale ainsi qu'à l'autorité nationale. Nationale, nous voyons la direction générale de l'OVD et par la direction générale, nous voyons aussi au-dessus de le ministère de tutelle, le ministère des ITP qui a sous sa tutelle le FONER qui a eu à débloquer les moyens pour que il y ait une suite de mise à disposition de fonds. À ce jour, nous pouvons dire que nous sommes toujours en attente. C'est la raison d'être de l'arrêt des travaux sur tous les sites. Nous avions circoncis des sites qui étaient vraiment touchés, à l'occurrence Kanyoka Village, Asda, ISTK, là où la route était complètement coupée. Bianchi aussi, c'est une grande érosion. Il y a Efo, la route d'Efo. Et les derniers sites dont nous avions couplé, c'est l'avenue Kambala ainsi que les sites Kamulumba où il y a des entretiens. Ce sont là les sites que nous avions ciblés pour travailler en urgence.
17e conférence annuelle des banquiers et des financiers à Abuja, au Nigeria, avec ses constats du vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui représente le chef de l'État. Pour Daniel Moukoko, notre économie est encore en cours de formalisation et l'accès aux services bancaires reste limité, notamment dans les zones rurales. Le secteur informel domine encore largement, ce qui rend difficile pour de nombreuses petites entreprises d'accéder aux financements nécessaires à leur croissance, affirme-t-il. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ajoute que la coopération entre les deux pays permettra de relever les défis de l'élargissement de l'accès aux services financiers et l'inclusion bancaire, surtout en milieu rural. Il l'est dit dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
J'ai donc pris part à cette 17e conférence de l'association nigériane des banques pour représenter le chef de l'État qui avait été invité par cette association. Le message du chef de l'État que j'ai délivré aujourd'hui, c'est un message de collaboration, un appel à la collaboration, au partenariat entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Comme vous le savez certainement, parce que nous avons déjà en RDC la présence de 4 ou 5 banques nigérianes, le Nigeria a en effet bâti un système financier national solide avec des banques nigérianes qui sont aujourd'hui en international, et il est clair que la RDC a beaucoup à apprendre du Nigeria, notamment dans des domaines comme l'inclusion financière, parce que le taux d'accessibilité aux services financiers est trop faible chez nous, surtout dans les milieux ruraux qui en ont déjà développé des produits, des instruments qui leur permettent de faire accéder aux services financiers même les populations les plus réclusées.
Au Nord Kivu, je le disais au sommaire, des violents combats sont signalés ce mercredi à Kikuvo et Ngekeni entre des combattants Wazalendo et les rebelles du M23. Ce sont des villages de la chefferie des Bamat dans la partie sud-est du territoire des Lubero. Aucun bilan de ces combats n'est disponible. Toutefois, un acteur de la société civile locale parle d'un déplacement massif de la population vers Kamandigité, village encore sous contrôle des Wazalendo du groupe FPP-AP des Kabilas. Par ailleurs, de nouveaux affrontements ont aussi opposé les rebelles du M23 aux groupes armés locaux dans les environs de Kichanga. C'est notamment dans les groupements des Bukombo et Bishusha, territoire de Rutshuru. Une situation qui a créé la panique dans la cité de Kichanga. Bernard Nyangi.
C'est autour du pont Sissa et dans le village Kizimba, à 7 km de Kichanga, que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la matinée ce mercredi. C'est dans le groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru. Selon certaines sources locales, ces affrontements opposant les rebelles du 1-23 aux combattants VDP Wazalendo se sont étendus du coup à d'autres villages du groupement voisin de Bishusha, toujours dans le Rutshuru. D'autres sources ajoutent qu'un autre groupe de jeunes Wazalendo aurait fait un autre assaut pendant les mêmes heures matinales au centre de Kichanga. Les habitants du milieu auraient ainsi passé la matinée enfermés dans leur maison, indiquent ces sources. Rappelons que ceci intervient après au moins 3 jours de combat entre les rebelles du 1-23 et les groupes armés locaux dans plusieurs agglomérations du groupement Bachali Kaembe en territoire de Masisi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, dans le territoire des Mambasa, environ 20 corps ont été découverts mardi dans les localités de Lianga, en chefferie des Babila-Babombi, c'est dans la province de l'Ituri. Selon deux activistes des droits humains dans la région qui citent des rescapés, ces personnes ont été abattues dans la nuit de dimanche à lundi par des maïmaïs de la faction Nduma UPLC, un groupe armé supplétif de rebelles des ZDF. Parmi les victimes, il y a 4 femmes et des enfants, dont la plupart ont été décapités, précise le même source. L'administrateur du territoire de Mambasa promet de vérifier ces informations auprès de ses services avant de se prononcer. Entre-temps, des acteurs de la société civile sollicitent l'intervention des autorités militaires pour aller chercher les corps des victimes qui gisent toujours au sol sur les lieux du drame. C'est pour qu'ils soient enterrés dignement. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. De Bunia, rendons-nous en Mbujimayi, au Kasaï oriental, où le gouverneur des provinces a clôturé officiellement hier mardi à l'école de police à Chipuka la formation des 103 officiers des polices judiciaires, dont 3 femmes. Cette formation de 3 mois organisée par l'Organisation internationale des migrations, OIM, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet des polices de proximité et professionnalisation de la police financé par le département d'État américain. Des explications avec Esther Ndalafina.
Sur les 103 officiers de police judiciaire admis à l'école de police de Chipuka, à plus ou moins 20 km de Mbujimayi, 91 ont réussi au test d'évaluation. Parmi eux, 15 policiers proviennent de 5 territoires que compte la province du Kasaï-Oriental. Ils ont à cette même occasion prêté serment auprès du procureur de la République du parquet près le tribunal de grande instance de Chilenge. Maître Pierrot Ntumba, assistant au projet gouvernance sécuritaire à l'OI IEM Kasaï Oriental, a indiqué que durant 3 mois de formation, ces officiers de police judiciaire ont appris plusieurs notions dont notamment le droit pénal général et spécial, la procédure pénale, les techniques d'enquête criminelle, la rédaction des procès-verbaux pour ne citer que ça. Le gouverneur de province qui a présidé la cérémonie de clôture a demandé à ses officiers d'être juste, honnête, loyal et respectueux des textes et lois de la République. Signalons que cette formation est la 6e phase du projet de police de proximité et professionnalisation de la police implémenté par l'OIM avec le financement du département d'État américain via le Bureau international de lutte contre les stupéfiants et l'application des lois INL. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, célébration ce mercredi à Kinshasa des 75 ans des conventions de Genève. À cette occasion, François Moreillon, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en RDC, a déclaré, je cite, « Même la guerre a des limites. Dans la guerre, il faut préserver l'humanité ». Fin de citation. Au cours de cette commémoration, une table ronde a été organisée par l'ambassade de la Suisse en RDC et l'Université de Kinshasa. Elle a réuni plusieurs participants, notamment des représentants du gouvernement, du corps diplomatique, des organisations internationales, de la société civile et ceux du milieu universitaire. Objectif, discuter sur les défis et les opportunités en rapport avec l'application du droit international humanitaire en RDC et identifier des mesures concrètes pour son respect. Les détails avec vous, John Tshibwabwa.
Le Convention de Genève, c'est l'incarnation de l'humanité commune et c'est les textes qui permettent de régler la guerre, affirme Jasper Sarotte, ambassadeur de la Suisse en RDC.
Les conventions de Genève, c'est, je pense, l'incarnation de l'humanité commune. C'est les textes qui permettent à régler la guerre, à régler des conflits, à donner accès aux humanitaires.
Pour François Moreillon, chef de la délégation du CICR, cette célébration est essentielle car elle permet de rappeler que même la guerre a des limites.
Cette célébration est essentiel car c'est l'opportunité de rappeler que même la guerre a des limites. Même dans la guerre, il faut préserver l'humanité et c'est le sens de la mission du CICR de porter protection et assistance aux victimes des conflits armés.
De son côté, Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté des droits à l'université de Kinshasa, explique l'importance qu'est rêvée cette table ronde.
Notre pays connaît une situation de violation des droits de l'homme à divers titres. Il était important que nous, comme pays victimes de ces violations, nous puissions réfléchir et voir si le droit international humanitaire est respecté dans notre pays ou pas.
Les organisateurs de cette table ronde ont tenu à rappeler que les conventions de Genève font du CICR le gardien du droit international humanitaire et l'université de Kinshasa représente un des canaux de sa diffusion.
Autre nouvelle, au lendemain du lancement de la grève des inspecteurs, cadres, agents ainsi que intervenants aux évaluations certificatives de l'éducation nationale, les conséquences se font déjà sentir. Des documents scolaires seraient abandonnés au niveau des signataires. Ces grévistes réclament notamment le paiement de leurs primes. L'inspecteur général de l'éducation nationale assure que les gouvernements s'y attellent déjà pour une solution idoine aux revendications des grévistes. C'est un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Réunis au sein du syndicat des administratifs et enseignants du Congo, SIADEC, ces grévistes parmi lesquels les compositeurs, examinateurs et correcteurs des épreuves certificatives se disent être fatigués d'attendre les promesses du gouvernement. Ils se plaignent également de l'indifférence de l'État malgré leur volonté de travailler pour le pays, comme indique l'un d'eux, Angèle Paenzo.
À la première ministre, chef du gouvernement, de payer aux inspecteurs et intervenants aux examens d'État les arriérés de leur prime 2. Centre national d'organisation CENO 2022 et 2024. Centre national de correction CNC 2022-2023 et 2024. ENAFEP 2021-2022-2023 et 2024. TENASOSPE 2022-2023 et 2024.
Pour sa part, l'inspecteur général de l'éducation à ce que les gouvernements s'attellent pour répondre aux désiderata non seulement des inspecteurs, mais également de tous les enseignants.
Je confirme qu'on paye incessamment une partie des TENAFEP. Les solutions sont là. J'espère que nous irons comme ça, sans relâche.
Certains parents de Kinshasa disent déjà être en difficulté de retirer les documents scolaires de leurs enfants à l'inspection générale de l'éducation à la suite de cette grève.
Actualité internationale.
Alors que les critiques internationales s'intensifient face au bombardement israélien à Gaza, Israël ouvre un nouveau front, celui de l'opinion publique en Afrique. Trois organisations pro-israéliennes ont organisé leur premier sommet parlementaire à Addis Abeba avec une trentaine de députés africains pro-israéliens venus de 25 pays. L'objectif, contrebalancer une opinion publique africaine largement pro-palestinienne. Ce sommet qui a duré 2 jours a été conduit par les organisations Think, les Alliés d'Israël et Africa Israel Initiative.
L'invité.
Le représentant résident de ONU Femmes en RDC, Adama Moussa, a participé à la 7e édition de ministres provinciaux et de chefs des divisions du genre à Matadi. Dans cet entretien qu'il a accordé à Karine Toperidassi, il parle de 3 mandats de l'ONU Femmes en RDC avec ses interventions dans les 5 grands domaines critiques où les inégalités envers les femmes sont criantes. Suivez.
Monsieur Adama Moussa, bonjour.
Bonjour.
L'ONU Femmes accompagne le gouvernement dans sa lutte pour la promotion du genre ainsi que pour la promotion et la protection des droits des femmes. Pouvez-vous nous décrire la nature de l'accompagnement d'abord de ONU Femmes mais aussi du collectif One UN en RDC?
Je crois que ce qui est important, c'est déjà de comprendre le mandat de ONU Femmes. ONU Femmes a 3 mandats, ce qu'on appelle le tripartite mandate. Ce mandat porte sur l'amélioration du cadre normatif, c'est-à-dire tout ce qui concerne les politiques, les stratégies, en lien avec le cadre international. Un appui au gouvernement, c'est vraiment l'amélioration du cadre normatif. Le deuxième appui, c'est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de coordination, parce que vous avez beaucoup d'intervenants dans le domaine du genre, donc il était extrêmement important pour nous, en tant qu'agence normative, de pouvoir accompagner le gouvernement dans le cadre de notre mandat de coordination, ce qui explique aujourd'hui, par exemple, ces 2 forums. Et notre 3e mandat, c'est un mandat opérationnel. Un mandat opérationnel, c'est là où on a des gaps importants. C'est-à-dire quand on analyse les politiques, les stratégies, les interventions, on se rend compte que les inégalités déjà sont critiques dans quelques domaines. Et pour la RDC, on a identifié 4-5 domaines critiques pour lesquels il nous faut avoir des interventions. Et ces interventions faites sous forme de projets catalytiques, sous forme de projets conjoints, en partenariat avec les autres partenaires.
Quels sont les domaines critiques?
Le premier domaine, c'est la participation politique, le leadership féminin. C'est-à-dire que si vous regardez les statistiques en RDC, mais aussi dans l'ensemble de ces pays, vous allez trouver que la sous-représentativité des femmes, que ce soit au niveau des instances de prise de décision, électif comme numératif, est extrêmement criante. Donc ça devient un domaine critique d'intervention verticale de ONU Femmes. Le deuxième domaine critique par rapport surtout à l'intervention de ONU Femmes, c'est tout ce qui concerne la réduction de la vulnérabilité économique des femmes. On sait que les femmes ont très peu de ressources économiques qui leur permettent d'améliorer les conditions de vie. Donc l'amélioration des conditions de vie à travers la mise à disposition des ressources, que ce soit les ressources financières, est un domaine extrêmement important. Parce que vous ne pouvez pas demander ou exiger de la promotion des femmes sans réduire la vulnérabilité économique. Donc ça, c'est le deuxième domaine critique. Le troisième domaine critique, c'est la violence. Vous savez, quand vous prenez les statistiques, 1 cas de violence est déjà 1 cas de trop. Mais par rapport à la République démocratique du Congo, toutes les statistiques démontrent qu'on a vraiment dépassé tout ce qui est du seuil même tolérable en termes de violence. S'il y a des seuils tolérables, il n'y en a pas. Et ce qui fait que les violences sont rampantes. Que ce soit les violences liées au conflit, que ce soit les violences domestiques, que ce soit les violences physiques, que ce soit les violences économiques, c'est un domaine réellement critique en RDC. Vous ne pouvez pas demander la participation politique des femmes dans un environnement où elles ne se sentent pas sécurisées, où elles ne se sentent pas à l'aise pour jouir de l'ensemble de leurs droits. Les questions femmes, paix et sécurité, vous avez beaucoup de processus de paix, leur implication, leur adhésion, que ce soit en termes d'actrice de la paix, ça c'est aussi un domaine critique. Et le dernier domaine, c'est la question de l'humanitaire. Vous voyez un peu tous les flux en termes de mouvement des populations déplacées. Les femmes constituent pratiquement 60 à 70% des populations déplacées. Pour nous, c'est un domaine critique. Voilà les 5 domaines critiques où nous pensons que les inégalités déjà sont criantes, où nous développons des interventions et c'est ce qu'on appelle notre mandat opérationnel.
Et vous avez affirmé dans votre mot d'ouverture de la 7e édition du Forum des ministres provinciaux et chefs de division de genre que l'intégration effective du genre dans les politiques publiques est une question de justice sociale. Qu'entendez-vous par le terme justice sociale?
Vous savez, il y a deux choses quand on travaille sur les inégalités. Il y a les inégalités de jure, donc ce qui est dans la loi, et il y a les inégalités de facto. Les inégalités de jure sont généralement corrigées quand on adopte un certain nombre de textes réglementaires ou de textes juridiques pour corriger ces inégalités-là. Les inégalités de facto sont des inégalités qui sont vécues dans le quotidien. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on a un cadre normatif réel, ces inégalités persistent. Donc la question de la justice sociale intervient. C'est-à-dire qu'avant, on disait que les femmes ont droit à. On élabore des lois, on leur propose des droits pour mieux les protéger. Malgré tout ça, on se rend compte que les femmes ne jouissent pas ces droits-là. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde qui peut dire qu'il peut se développer sans la contribution significative des femmes. Donc la question de la justice sociale, c'est la reconnaissance de cette contribution-là en termes de droits.
Monsieur Adama Moussa, je vous dis merci.
Merci à vous aussi, madame.
Le représentant résident de ONU Femmes en RDC, Adama Moussa, répondait aux questions de Karine Topé-Ridassi. Et c'est la fin de cette session de nouvelles sur Radio Kapi. Jean-Claude Ntiala, la mise en onde sous la supervision et coordination de Pele Kipela Mondo et Richard Junior Kamungambo Achimankinda. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous d'avoir été avec nous.